Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvot traite cette fois-ci de faux pas et sanctions.
Du faux pas au bégaiement. Pas, donc P-A-S. Lent, compté, grave, stable, mesuré, ferme, tardif, avancé, faux, bronchant, morne, compassé, long, douteux, tracé, franc, assuré, solide, formé, larron. On se prend à rêver sur le pas larron. Mais d'évidence, il n'y a pas là encore de traces du faux pas. De quel ouvrage est tirée cette liste d'adjectifs ? D'un dictionnaire de 1571, aujourd'hui totalement oublié et sobrement intitulé « Les épithètes », c'est-à-dire en droite ligne du grec « epithéton », ce qu'on peut ajouter. Maurice Delaporte y offrait en effet des listes d'adjectifs possibles aux noms communs les plus répandus pour aider ceux faisant profession de la poésie. C'est du latin « pandere », écarté, que vient le mot « passus », écartement entre les deux jambes, donc le pas, ou, comme le définit benoîtement Richelet en 1680, le marché d'une personne, marché ER. Furtière en 1694 rappelle d'emblée que c'est la mesure qui se prend de l'espace qui est entre les deux pieds d'un animal quand il marche, et d'ajouter que le pas commun de l'homme est de 2 pieds et demi. Serait-ce dans ce demi que se joue le faux pas ? Attesté dans la langue dès le XVIe siècle, le faux pas qui fait glisser ou chanceler, disent les dictionnaires, et le pas de clerc, celui du débutant, sont assortis d'exemples alarmants. On nous observe, prenez garde de faire un faux pas. Il a fait un pas de clerc qui a ruiné son affaire. Bigre. Le faux pas peut pourtant avoir du charme. En 1799, Marmontel, à propos de la belle Manon Lescaut, signalait tout ce que la faiblesse peut avoir de grâce et de décence dans ses faux pas. Tout comme Colette soulignait, à propos d'une vedette du music-hall, qu'elle se louait d'un faux pas, d'un entrechat manqué. Pensons aux malheureux candidats qui sont dans la situation décrite par Georges Duhamel dans la Confession de minuit. J'imaginais qu'à droite et à gauche de l'étroite bordure il y avait un précipice et que je devais avancer sans le moindre faux pas. Il n'en fallait pas davantage pour me faire hésiter, bégayer des jambes, trébucher. Sanction, voire Saint et Casablanca. En 1680, pas de sanction dans le dictionnaire français de Richelet. Le mot redouté n'entre en effet que dans le dictionnaire universel de Furtière en 1690 avec une définition qui peut surprendre. Constitution qui fut faite au concile de Bâle pour la réformation de l'Église. On l'appelait pragmatique sanction. Ce que confirme la première édition du dictionnaire de l'Académie en 1694, dans lequel on bute sur un renvoi déconcertant, sanction, voire saint. C'est en effet à l'ombre du saint que la sanction y est définie en tant que constitution, règlement sur les matières ecclésiastiques. Il ne se dit guère qu'avec le mot de pragmatique. Diable, mauvais départ pour ce mot aujourd'hui si répandu. En vérité, sanction est issu du verbe latin « sancire », dérivé de la racine « sanct », et désignant le fait de rendre sacré, donc inviolable. La sanction représente ainsi au Moyen-Âge un règlement ecclésiastique et donc l'approbation d'une règle, gare ensuite au contrevenant. L'Académie renchérit en 1798 avec l'exemple révélateur choisi pour la sanction. Ce mot n'a pas reçu sa sanction de l'usage, un usage qui fixe la norme à ne pas enfreindre. Au XIXe siècle, dans le sillage des philosophes, Larousse fait état de la sanction naturelle, de la sanction légale, de la sanction de l'opinion et de la sanction intérieure. Au trésor de la langue française, d'intégrer en 1994 le vote sanction, un supplément intégrerait sans nul doute les sanctions internationales. Saint-Exupéry en aurait-il été la première victime? Ainsi, à 2000 km de Casablanca, il recevait ce message sans concession. « Monsieur de Saint-Exupéry, je me vois obligé de demander pour vous sanction à Paris. Vous avez viré trop près des hangars au départ de Casablanca. »